C'est la Titanesque émission, une coproduction Titan Radio BLV.
Bonjour, vous êtes dans la Titanesque émission numéro 32 et notre thème aujourd'hui c'est l'effet sur les femmes de la réforme des retraites. Et pour ça, j'ai deux invités avec moi dans le studio parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, Lucie n'est pas là. Céline, qui enregistre d'habitude cette émission, n'est pas là non plus. Tout le monde est bien, bien fatigué. Je ne sais pas comment ça va vous, mais voilà, chez nous, il y a de la fatigue. Il y a dit-elle qui a été touchée par le Covid parce que le Covid, ça repart un peu, paraît-il. Et on aura quand même Oxane, mais qui ne sera pas avec nous dans le studio, qui nous fera, qu'on a enregistré avant et qui nous parlera d'un film qu'elle a lu. Donc, avec moi dans le studio aujourd'hui, il y a Karine Guichard de la CGT. Bonjour Karine.
Bonjour.
Et il y a Florence Letrec de Solidaire. Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors, on va se tutoyer comme d'habitude, même si on ne se connaît pas forcément, mais entre camarades féministes, puisque ces deux dames, bien entendu, sont féministes, puisqu'elles sont dans la titanesque émission. Et on va parler avec elles de cette réforme, de syndicalisme. Vous allez voir, on a une heure ensemble.
Laisse-moi te chanter, parler te faire où je serai poli pour la télé, mais va te faire
Alors d'abord, je vais vous demander à toutes les deux d'expliquer à nos auditrices et nos auditeurs ce que c'est qu'un syndicat, ce que ça fait, parce que c'est un mot qu'on entend souvent, on a l'impression qu'on sait tous ce que c'est, puis en fait, pas tant que ça. Donc peut-être on peut commencer avec toi, Karine, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans ce syndicat et c'est quoi la différence avec un parti politique? Et en l'occurrence, il y a eu pendant très longtemps des liens entre la CGT et un parti politique qui est un peu mort maintenant quand même, ou mourant, on va dire. Pas mort, mourant. Peut-être c'est exagéré d'ailleurs que je dise mourant, je réfléchis. Enfin, qui n'a plus du tout l'ampleur qu'il a eu dans le passé, c'est le Parti communiste. Et peut-être que ça a créé cette idée qu'il y avait des liens avec les partis politiques. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Alors, donc, moi, je suis syndiquée depuis bientôt 30 ans. Donc, je suis une vieille dame du syndicalisme. Je suis moins vieille que la CGT, qui est née en 1895. Donc,
ah
c'est
oui, quand
très, très vieux. Et avant, le Parti communiste, qui, lui, date de 1920. Donc, on était là avant. Pour expliquer un petit peu ce que je fais, donc moi j'ai un mandat pour la CGT à Lyon. Je siège dans un organisme qui s'appelle le Conseil économique et social régional, qui a pour objectif de conseiller et d'éclairer les politiques régionales et voilà, d'éclairer Monsieur Laurent Wauquiez, ce qui n'est pas toujours facile. Ça, c'est mon mandat et j'ai aussi une responsabilité au sein de la CGT régionale. Je m'occupe de tout ce qui est communication, donc j'ai un site internet, les réseaux sociaux et surtout une radio, Radio CGT, qui est des podcasts qu'on fait de manière irrégulière, sans durée définie, en fonction des gens qu'on rencontre, des manifs... des luttes dans les entreprises ou des sujets. Par exemple, la dernière émission qu'on a faite, c'était sur le ventre des femmes. Est-il la solution à la réforme des retraites ?
Ah, c'est marrant, je devine la réponse. On vous trouve comment ? On tape Radio CGT dans un moteur de recherche ?
On nous trouve soit sur une plateforme qui s'appelle Spectre, qui est une plateforme avec des podcasts. Il y a Solidaire, d'ailleurs. Il y a Attac. Il y a voilà, c'est plein de structures... Qui font des podcasts. Il y a beaucoup de podcasts féminines, d'ailleurs, je pourrais vous l'envoyer. Soit sur le site de la CGT, donc c'est www.cgt-org. aura@ura.org.
D'accord, donc la CGT Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est
voilà,
ça.
C'est ça qu'il faut préciser. J'imagine qu'il y a d'autres régions, d'autres CGT.
D'autres régions, voilà. Nous,
donc là, c'est bien une radio locale ancrée dans un territoire qui est celui d'Auvergne-Rhône-Alpes. OK, on mettra les liens de toute façon sur le site de Radio BLV. Deuxième question, mandat, c'est un terme que tu connais bien, que vous connaissez bien toutes les deux, mais qui ne parle peut-être pas à tout le monde. Ça veut dire quoi, avoir un mandat, quand tu dis j'ai un mandat ?
C'est avoir un mandat, alors tu as deux styles de mandat. Tu as soit ce qu'on a un mandat électif, c'est quand tu es élu par les salariés de ton entreprise. Et moi, j'ai ce qu'on appelle un mandat représentatif, c'est-à-dire que la CGT a un certain nombre de sièges dans cet organisme. Et c'est mon organisation qui m'a demandé d'y aller.
Voilà, qui t'a désigné pour représenter ton syndicat.
Voilà.
Et un mandat électif, on peut peut-être donner les noms des gens qui, en entreprise, ont ces mandats électrices, c'est-à-dire qui prennent la charge de s'occuper de représenter les autres. Parce que c'est ça, un mandat, ce n'est pas de l'argent dans sa poche, ce n'est pas la gloire.
C'est surtout du travail.
C'est beaucoup de travail. C'est s'exposer aussi, j'imagine, à beaucoup, on va dire, d'agressivité, de difficultés. Mm-hmm. Donc, les gens qui s'y collent et qui veulent bien faire ça, on les appelle comment dans l'entreprise ?
Alors, c'est ce qu'on appelle les IRP, les institutions représentatives du personnel. Alors depuis que la dernière loi de travail, il n'y en a presque plus. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que les membres du CSE, le Conseil social et économique. Il y a les délégués du personnel n'existent plus.
Alors on ne dit plus délégué du personnel, maintenant on dit membre du CSE, c'est ça. Donc l'ancien comité d'entreprise et les anciens délégués du personnel ont été fusionnés ensemble.
Avec le CHSCT qui était quand même l'instance, une des instances la plus importante. Et là, pour faire le lien avec la retraite, c'était aussi l'instance qui combattait la pénibilité dans les entreprises.
Alors, le CHSCT, c'était le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc, il y avait trois organes de représentation des salariés dans les entreprises de plus de 50. Désormais, tout a été fusionné dans ce fameux CSE. Et donc, les représentants du personnel, maintenant, s'appellent représentants du personnel.
Voilà.
Et les délégués syndicaux, ça existe toujours ?
Là, ça existe toujours. Alors là, le délégué syndical n'est pas élu. Il représente le syndicat. C'est un autre mandat. Là, c'est un mandat, comme moi, de représentation où tu n'es pas élu.
D'accord. Merci. Alors, toi, Florence, de ton côté, à Solidaire.
Donc, moi, je suis militante à Solidaire 0726. L'Union syndicale solidaire, c'est le regroupement de l'ensemble des syndicats Sud et Solidaire, dont certains sont assez connus, comme Sud PTT, Sud Rail, qui sont des très gros syndicats. Voilà, donc l'ensemble de tous ces syndicats se regroupent dans l'Union syndicale solidaire, qui est une formation beaucoup plus récente que la CGT, et qui se distingue par la particularité d'être un syndicat autogestionnaire. Donc, qui fonctionne sur ce qu'on appelle la démocratie participative. Donc, au sein de notre syndicat, il n'y a pas d'élus. Chaque syndicat est autonome, prend des décisions sur les ordres du jour qui vont être à traiter, ont tous les deux. Alors là, c'est ça qui est un petit peu compliqué entre Sud et Solidaire. Solidaire, c'est l'organisation interprofessionnelle où on se retrouve tous les Suds. Dans chaque syndicat Sud, les militants décident des orientations, des actions, des mobilisations. Et au niveau national, c'est l'émanation des décisions de chaque syndicat de base.
Alors, si on ne veut pas se perdre, parce que c'est très difficile, en fait, de l'extérieur, de comprendre comment ça fonctionne, surtout que tous les syndicats, alors peut-être qu'on peut citer les plus connus en France. Là, aujourd'hui, vous représentez la CGT et Solidaire. Il y a aussi la CFDT, il y a l'UNSA...
Force ouvrière.
Force ouvrière.
CFE, CGC,
la CGC,
tous les syndicats là, que tu viens de citer sont présents dans l'intersyndicale interprofessionnelle de la Drôme.
D'accord, donc ça, ça va être quand vous vous regroupez tous ensemble pour réfléchir à des actions communes, comme en ce moment la réforme des retraites.
Comme l'organisation des manifestations.
On a oublié des syndicats ou les ateliers. Il n'y a pas FSU aussi ?
Ah, la CFTC.
Si, si, la FSU, bien sûr.
FSU, CFTC, voilà. Donc, il y a tout un ensemble de syndicats. Donc, nous, on connaît les sigles au niveau national, voilà, ces sigles-là. Mais en fait, au départ, ce sont des élus dans des entreprises qui vont se regrouper par branche professionnelle pour
parler
de
PTT des élus.
Ou la CGT transport. On sent bien que vous avez des espèces de regroupements par métier, puis qu'ensuite vous vous regroupez tous ensemble pour faire une, ce qu'on appelle une confédération, c'est-à-dire alors évidemment les auditeurs de Distrif peuvent pas, vous pouvez pas voir mes gestes, mais je suis en train de avec mes mains de montrer des marches d'escalier puis une espèce de pyramide avec un sommet où nous on va voir à la télé ben, les représentants et les porte-parole de chacun de ces confédérations qui vont pas forcément parler au nom du rail, des écoles ou de je ne sais quoi, mais de l'ensemble de tout ce que tout le monde dans chaque bout de représentation par métier vient dire qu'il y a comme problème dans les entreprises, la fonction publique et les associations. On peut à peu près dire ça. Je vous vois faire la moue.
Oui, enfin...
Karine Guichard.
En fin de compte, chaque organisation est le fruit de son histoire. Donc nous, comme je disais, notre histoire, elle est très, très vieille parce que la création de la CGT, c'est... Avant que la CGT ait été créée, il y avait quand même des syndicats parce que depuis qu'il y a des travailleurs, il y a une organisation collective contre le patronat, Spartacus, par exemple. Vous voyez qui... Donc ça, il y a toujours eu des organisations, mais qui étaient clandestines. C'est-à-dire que la légalisation des syndicats, c'est... 1895.
Alors oui, ça nous amène quand même au sujet du début qui était quelle est la différence avec un parti politique ? Et là, tu touches du doigt, il me semble.
Je vais expliquer. C'est que donc il y a toujours eu les travailleurs qui ont eu besoin de se regrouper face au patronat. Au cours du 19e siècle, il y a eu plein d'expérimentations, plein de luttes. Dans le coin, il y a les canuts qui sont assez connus. Et il y avait deux modalités de lutte. Soit une modalité de lutte dans l'entreprise. La corporation, c'est ce qu'on appelle le syndicalisme de métier. Donc, par exemple, il y avait le syndicat des chapeliers, le syndicat des dames de commerce. Soit sur une base territoriale. C'est ce qu'on appelait les bourses du travail.
D'accord. Donc, soit on se regroupait par ville, presque, ou par village. Mmh. Tous ceux qui travaillaient dans une ville ou un village se regroupaient ensemble, j'imagine, pour discuter, se renforcer,
oui, puis
organiser peut-être des grèves collectives.
Il n'y avait pas la Sécu à l'époque.
Oui.
Et donc, c'était aussi là où on organisait les caisses de secours mutuels, par exemple, quand il y avait un accident du travail,
d'accord, donc
le secours
cotisait.
À la veuve.
Oui, mais là, c'est déjà justement une dimension interprofessionnelle.
C'est ça, c'est ce que je dis. Oui.
Mais... généralement qui n'est pas à la place des syndicats par branche de métier. C'est-à-dire que c'est le syndicat des canuts, le syndicat des dames de commerce, comme tu évoquais, qui vont se regrouper.
Non, il y avait les deux.
Moi,
non, non, non. Ouais. Au 19e siècle, c'était deux façons de... Deux orientations.
Ça s'est créé en même temps, en fait,
oui,
selon
oui,
les endroits.
Oui, selon les endroits. Et généralement, les syndicalismes de métier étaient plus sur la lutte, tandis que les bourses du travail, il n'y avait pas les syndicalismes de métier. C'était une autre organisation qui était beaucoup plus... Ben, c'était l'ANPE.
C'était la formation. C'était
la formation. C'était
oui,
en
oui,
gros tout
fait.
Ce qui maintenant existe dans... C'est un peu le service public ou la protection sociale, vous voyez.
D'accord, donc en fait, c'est...
La formation professionnelle.
Et des travailleurs qui
voilà.
sont créés
et
pour
Et en 1895, ce qui a créé la CGT, c'est pour ça que les vieux logos, c'est deux mains qui se serrent, c'est les syndicats professionnels et les bourses du travail qui se sont mis ensemble pour créer la CGT. Et nous, toute notre complexité, toute notre organisation vient de là. C'est-à-dire qu'on garde toujours nos bourses du travail, donc c'est les unions locales, les unions départementales, et on a, nous, des syndicats d'entreprise. D'accord. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans un syndicat. Mon syndicat est totalement autonome. C'est-à-dire, si on décide de faire grève pour les retraites, on fait. Mais si on décide de ne pas faire grève, on ne fait pas grève. Et si on décide de faire grève parce que notre patron nous enquiquine, ben on fait grève. Enfin, on a une autonomie. Ça, c'est l'héritage de notre histoire.
Mais ça ressemble du coup à ce que dit Florence Lautrec à propos de Solidaire. C'est-à-dire que finalement, alors je pourrais presque dire micro-organisation, je ne sais pas si ça serait le bon terme dans votre langage à vous, mais chaque micro-organisation au niveau d'une entreprise ou d'une branche professionnelle locale a l'autonomie de décider quelles actions elles vont faire.
Tout à fait.
D'accord.
Et okay. Là où je voulais en venir, c'est que tu as des organisations syndicales qui ne sont pas organisées comme ça.
D'accord. Tout à fait. D'accord. Voilà. Okay. C'est une spécificité de vos deux qui n'ont pas la même histoire, j'entends.
Voilà.
À vous écouter, que la CGT, il y a une histoire, on pourrait dire séculaire, parce que c'est plus d'un siècle. Voilà. Peut-être Solidaire, c'est plus récent.
C'est beaucoup
dans ma mémoire,
plus récent.
C'est le 20e siècle.
Oui, oui.
Hein mais on retrouve ce fonctionnement, on va dire, très respectueux de la base. J'ai l'impression qu'on pourrait dire ça comme ça, la base, c'est-à-dire ceux qui font vivre dans l'entreprise ou dans les organisations, les syndicats.
Et pour, que ça soit pour Sud ou Solidaire, c'est vrai dans toutes les étapes. C'est-à-dire que même les orientes... Alors, moi, par exemple, je suis dans le syndicat Sud Éducation puisque je suis enseignante. Les orientations nationales ne sont portées par des syndicats locaux.
Mmh, d'accord.
Okay. Uniquement.
Donc,
il y a pas de.
Ça veut dire si les gens qui nous écoutent se disent ah bah tiens c'est intéressant, je savais pas que finalement un syndicat c'était pas un parti politique qui portait des grandes idées et qui œuvrait pour prendre le pouvoir, des grandes idées sur le fonctionnement de l'État. Mmh. Je vois Karine les sourcils en me disant mais si on a des grandes idées, mais oui tout à fait. Mais je veux dire des grandes idées sur le fonctionnement de l'État, comment la nation doit être dirigée. Vous, bien sûr, vous portez des grandes idées, mais ça va être toujours lié au travail.
Absolument.
Bah nous, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle la double besogne. C'est-à-dire qu'un syndicaliste a une double besogne. La première besogne, c'est d'améliorer les conditions de travail, les conditions de vie des salariés. Et la deuxième besogne, c'est la transformation sociale, la transformation de la société pour mettre fin au capitalisme, pour la faire courte.
Ah oui, donc il y a quand même une partie qui ressemble à de la politique au sens noble.
C'est la différence entre la démocratie politique et la démocratie sociale.
C'est ça, donc vous...
Non, je dirais surtout qu'un parti politique, il a pour le projet de gouverner le pays.
Oui.
Là où le syndicat n'a pas ce projet-là, le syndicat défend les conditions de travail dans des travailleurs et travailleuses. C'est aussi notre projet chez Solidaire. On a aussi un projet de transformation sociale, bien sûr, de transformation de la société. Mais les syndicats n'ont pas de candidats aux différentes élections. Ils ne sont pas là pour gouverner
le pays. D'accord. Donc,
le pays ou la ville ou...
Si on a envie, on peut avoir plusieurs niveaux d'action syndicale. Est-ce que du coup, pour venir... dans vos syndicats, pour y agir, est-ce qu'il faut avoir, en ce qui concerne Solidaire et la CGT, puisque ce n'est pas forcément le cas de tous les syndicats, j'entends, avoir ce projet de transformation sociale, c'est-à-dire avoir envie de changer un petit peu le monde, quand même, j'entends, dans ce que vous dites.
Ben oui.
Est-ce que si ce n'est pas le cas, du coup, il vaut mieux aller dans un autre syndicat qui va être vraiment très, très centré sur les droits, les conditions de travail des salariés. Voilà. Est-ce qu'il y a ces deux niveaux? Est-ce que ça peut permettre de se repérer quand on se dit, ben, moi, j'aurais envie d'aller dans un syndicat, mais je ne sais pas trop lequel. Est-ce que ça peut être une des raisons qui font qu'on en choisit un plutôt qu'un autre?
Ben, moi, je dirais que
Moi, je dirais que nos deux syndicats portent à peu près le même projet. Ils sont anticapitalistes, féministes, écologistes.
Oui, mais ceci
et
dit...
Et si on n'adhère pas à ces valeurs-là, c'est un peu compliqué d'y trouver sa place.
C'est pas une question de valeur. Enfin, je pense qu'il y a des gens pour qui militer dans l'entreprise et améliorer concrètement les conditions de travail, c'est quelque chose qui leur plaît. Et l'idée de la double besogne, pardon, c'est que tout le monde a sa place, quoi. En fin de compte, là, nous, ce qu'on dit, alors, pas avec Solidaire, je pense que on est d'accord sur énormément de choses. Ce qui fait beaucoup la différence avec les autres syndicats que tu as cités, c'est surtout sur la façon d'y arriver. C'est-à-dire que pour beaucoup de syndicats, il suffit de discuter. Nous, on prend position en disant que quand on discute, ça ne suffit pas, il y a un rapport de force et qu'on n'a pas peur d'aller jusqu'à la lutte. C'est-à-dire que quand on nous dit non, on ne s'en contente pas, quoi. Voilà, je pense que ce n'est pas tellement un niveau de là où on veut agir. Tu peux avoir
l'impression... Oui, moi, je ne suis pas tout à fait aussi convaincue que toi. Je pense que tous les syndicats ne portent pas le même projet de transformation sociale. Et que, effectivement, par rapport à là où on se situe, tous les syndicats ne sont pas anticapitalistes. Oui, tous les syndicats ne portent pas des valeurs féministes.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux venir à la CGT, même si tu n'as pas envie de transformer, mais que tu ne veux que améliorer tes conditions de travail. C'est
alors,
ça que
dans
je
ton militantisme,
il y a pas la
tu veux dire.
Condition. C'est
dans
pas
ton militantisme. Ah, ben, bien entendu que tu n'es pas.
Enfin, on ne demande pas un certificat de féminisme ou d'être anticapitaliste quand on adhère. Nous, on a des gens qui ont vraiment des orientations politiques très différentes, par contre, qui se reconnaissent dans la combativité dans l'entreprise. Voilà. Mais qui ne vont jamais.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'on a vraiment une
donc
diversité.
Je pense que c'est effectivement une nuance. Entre nos deux syndicats, parce que nous, on se pose clairement comme un syndicat de transformation sociale et de lutte. Et ça paraît compliqué d'être adhérent à Solidaire ou dans un Sud si on n'est pas d'entrée anticapitaliste, par exemple.
Ah oui, ben nous, on se positionne, mais on se positionne clairement.
Une différence de nuance, oui, oui.
Sur les valeurs, l'antiracisme, l'écologie, le féminisme, on est très positionné là-dessus. Et d'ailleurs, il est arrivé qu'on demande à des gens de démissionner parce que justement, ils portaient des valeurs contraires aux nôtres. Mais par contre, on a quand même une diversité à l'intérieur qui fait que, voilà, des fois, les discussions sont
vives.
Vives. Mais j'aime bien, moi.
On va écouter un chant qui a été chanté dans plusieurs manifestations par les Rosies. Un jour, on les invitera dans la titanesque émission. Les Rosies, bon, c'est un groupe féministe qui n'existait pas il y a tellement longtemps dans la Drôme. Moi, je l'ai découvert cette année. Ça existait à d'autres niveaux nationalement, mais dans la Drôme, elles viennent d'arriver et qui se veulent, j'ai l'impression, mais ça serait à confirmer en les invitant, des féministes au travail et en lien avec le travail. Donc on va écouter une chanson qui a été reprise dans beaucoup de manifestations.
Te faire avoir
tes périodes à mi-temps, ce sera pour ta poire.
Si tu veux des enfants, tu partiras plus tard.
Car le gouvernement raconte que t'es bobard.
Des mots, des mots.
Grande gagnante, calculo.
Des mots, des mots.
Espèce de mytho.
Des mots, des mots.
Vas-y, arrête ton pipeau.
Des mots, des mots.
Là, ça devient chaud.
Women on fire.
Le gouvernement déraille.
Women on fire.
On rentre dans la bataille.
Women on fire.
Ils ne seront pas de taille.
Women on fire.
Woo!
Na 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 na.
Arrête ton blabla.
Na 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 na.
Nous on te croit pas.
Na 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 na.
Ta réforme en bois.
Na 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 na.
Elle ne passera pas.
We'll be right back.
Et meuf, t'es au courant, tu vas te faire avoir.
Tes périodes à mi-temps, ce sera pour ta poire.
Si tu veux des enfants, tu partiras plus tard.
Car le gouvernement raconte que t'es bobard.
Des mots, des mots.
Grande gagnante, quel culot.
Des mots, des mots.
Espèce de mytho.
Des mots, des mots.
Vas-y, arrête ton pipeau.
Des mots, des mots.
Là, ça devient chaud.
We men on fire.
Le gouvernement déraille.
We men on fire.
On rentre dans la bataille.
We men on fire.
Ils ne seront pas de taille.
We men on fire.
Woo!
Man, 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 man.
Arrête ton blabla.
Nan, 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 nan.
Nous, on te croit pas.
Nan, 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 nan.
Ta réforme en bois.
Nan, 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 nan. Elle ne passera pas.
Vous êtes toujours dans la titanesque émission numéro 32 du mois de mai. Joli mois de mai ou du mois d'avril? Non, du mois d'avril. Oh, Catherine, t'as pas de tête. Oh, ça aurait été bien qu'on la fasse pour le mois de mai, cette émission. Tiens, j'ai pas réfléchi. Bref, c'est l'émission du mois d'avril. On est toujours avec Karine Guichard de la CGT et Florence Lautrec de Solidaires. On parle syndicalisme. On a parlé syndicaliste jusqu'à maintenant et on va continuer avec l'aspect plus spécifique de la question de la réforme des retraites, ce qu'elle fait ou ce qu'elle va faire aux femmes et pourquoi, en tant que femme et en tant que femme de syndicat, et vos syndicats ont pu s'y opposer, sur quels aspects? Alors, je vais commencer par Florence cette fois. Est-ce que tu peux me dire un point de la réforme des retraites qui te paraît important, qui pose vraiment problème par rapport à la situation particulière des femmes dans le monde du travail?
Alors, cette retraite, elle est injuste pour tout le monde, mais elle l'est encore plus pour les femmes. Pour prendre un exemple... Actuellement, les retraites des femmes sont inférieures de 40% à celles des hommes.
Comment c'est possible, ça?
Alors, parce que les femmes ont des carrières plus courtes, des métiers globalement moins bien payés. L'écart de rémunération, c'est 26% entre les hommes et les femmes dans le privé et 17% dans le public. Et on retrouve un écart plus important au niveau des retraites, parce que les femmes ont plus de mal à arriver à une carrière complète, parce qu'elles ont plus souvent travaillé à temps partiel que les hommes, parce qu'elles ont des salaires moins élevés que les hommes et des déroulés de carrière moins porteurs que les hommes.
Alors pourquoi on a des carrières plus courtes?
Parce que les tâches domestiques, tout le travail non rémunéré de la maison, des enfants, de l'accompagnement... des parents âgés étaient encore plus que majoritairement exécutés par les femmes.
Donc on reste, finalement on rentre dans le monde du travail plus tard, donc après avoir fait des enfants?
Oui, alors souvent on est rentré dans le monde du travail avant, mais c'est quand même davantage les femmes qui s'arrêtent, vont être soit en congé parental, soit en temps partiel. Et puis aussi parce qu'elles travaillent davantage dans des métiers où le temps partiel existent. Je pense au personnel de ménage, hein, dans les entreprises, dans les bureaux. C'est des personnels qui travaillent avant que les bureaux ouvrent, après que les bureaux ferment, et souvent des emplois à temps plus partiel.
Donc c'est en fait un effet cumulatif des inégalités sur le marché du travail. Et du coup, en quoi est-ce que cette réforme, finalement, elle empire cette situation en rajoutant des inégalités, ou c'est vraiment la conséquence de ce qui existe sur le marché du travail? C'est-à-dire, en quoi, par exemple, le fait de partir à 64 plutôt qu'à 62, ça va éventuellement, je ne sais pas, hein, c'est une question ouverte, être pire pour les femmes?
Mais déjà parce que la durée de cotisation va s'allonger, et que déjà, actuellement, les femmes ont du mal à avoir une carrière complète. Si on rajoute des annuités à faire, hein, puisqu'on va passer de 42 à 43, si je n'ai pas de bêtises, et ben, si on avait déjà du mal à avoir nos 42 annuités, on aura encore plus de mal à en avoir 43.
Ouais. 42 annuités, ça veut dire 42 ans pendant lesquels on travaille et on cotise, donc aux caisses de retraite, ou à l'intérieur desquelles on peut avoir certaines périodes équivalentes à du travail. Quand, par exemple, on est au chômage indemnisé, je pense à cette situation, un tas de congés, comme le congé maternité. Le congé maternité ne fait pas perdre des annuités de travail pour la retraite. Le congé parental, je crois qu'on garde la moitié de mémoire. C'est-à-dire, si on prend 3 ans de congé parental dans ma mémoire, mais elle est ancienne, hein, je ne sais plus, on a droit à un an et demi.
Ça dépend si tu es dans le privé ou dans le public.
Oui.
Ce n'est pas le même calcul.
Ah oui, d'accord. Et oui, donc, il n'y a pas une égalité sur la question des retraites, en plus.
Non, et puis je pense que les trimestres octroyés par enfant ne sont pas dépendants de ton temps d'arrêt.
Ça dépend. En fin de compte, quand tu attends en congé parental, la CAF te valide des trimestres de cotisation.
C'est ça, mais pas les 3 ans.
Mais pas les 3 ans, et en plus, c'est pas ton salaire.
Ah non, c'est les trimestres.
C'est les trimestres.
Là, on parlait de la durée, voilà. C'est ce qui est compliqué à comprendre, je trouve, dans les retraites.
Oui.
C'est qu'il y a à la fois la question de ce nombre d'années de travail.
Il y a les trimestres travaillés et les trimestres validés.
Voilà, les trimestres travaillés, les trimestres validés. Donc, on va avoir ce nombre de trimestres minimum pour pouvoir partir, comme Florence, tu le disais. Donc, ça vient d'augmenter. Il va falloir travailler plus, hein. Je crois qu'on a quand même tous bien compris ça. D'une manière ou d'une autre,
oui.
Travailler plus, c'est ce que ça signifie très concrètement,
oui.
Plus longtemps.
Il y a un petit calcul, enfin moi qui me semble, c'est comme si vous deviez rendre la moitié des congés payés que vous avez pris dans toute votre carrière ces 2 ans de plus. On vous reprend la moitié de vos congés payés.
Ah, tu as calculé cette équivalence?
C'est l'équivalent.
Ah ouais, ça parle.
Ça parle, hein.
Ça parle bien.
C'est comme si tous les ans, on redonnait la moitié de nos congés payés.
D'accord. Donc, il y a cet aspect durée
en
emploi.
Et en plus, en fin de carrière professionnelle, à un âge
où on est fatigué.
On est fatigué.
On va le dire.
C'est quand même aussi l'autre aspect problématique de la réforme, dans les critères de pénibilité qui peuvent donner des droits à partir plus tôt. Les métiers féminins sont beaucoup moins reconnus dans les critères de pénibilité. Les critères restent encore très sur des métiers masculins.
Ouais. Est-ce que tu peux expliquer en quoi, justement,
ces
critères de pénibilité?
Le port de charges lourdes, par exemple, pour des aides-soignantes ou pour des caissières qui soulèvent des tonnes de kilos.
Mais ça ne va pas être reconnu comme, par exemple, du port de charges lourdes dans des métiers plus masculins comme les métiers du bâtiment où on va trimballer des gros sacs de ciment. Et ceux des caissières vont être moins reconnus. C'est ça que tu expliques comme une pénibilité juridiquement validée, j'allais dire, par rapport au droit à la retraite. C'est ça? Karine, tu me plisses l'œil.
Oui, oui, non, mais c'est, en fin de compte, à la fois, je suis d'accord, les inégalités. Donc, tu as justement parlé de la pénibilité, mais il y a aussi dans quel état on arrive à la retraite. C'est-à-dire que déjà actuellement, le système est inégalitaire. Déjà actuellement, On estime à environ 30% des salariés qui arrivent à la retraite en n'étant pas en activité.
Là, c'est tout genre confondu.
Tout genre confondu, absolument. Soit chômage, soit invalidité. Mais ça, c'est tout, chiffre confondu. Mais en réalité, c'est 37% des femmes.
Ah.
C'est-à-dire, c'est une moyenne. Mais les femmes sont beaucoup plus concernées par le fait de...
D'être au chômage ou en invalidité au chômage au moment de la retraite.
Voilà.
Et donc, du coup, l'augmentation de cette précarité entre ces périodes, parce qu'effectivement, dans la fonction publique, on arrive à travailler, on n'est pas licencié, donc on peut travailler jusqu'au bout.
Mais
dans le privé, comme le dit Karine, ben, voilà, au moment de la retraite, il y a déjà 30% de gens qui ne sont plus en activité.
Mais dans le public aussi, parce qu'il y a les invalidités. Et dans le public...
Pour les invalidités.
Moi, je travaille dans une mairie, par exemple, j'ai beaucoup de femmes de ménage. Déjà, elles sont majoritaires à devoir aller jusqu'à 67 ans. C'est-à-dire, là, pareil, actuellement dans la loi, si tu veux ne pas avoir de décote, si tu n'as pas une retraite complète, il faut aller jusqu'à 67 ans.
Avoir une décote, ça veut dire avoir une retraite plus basse. En gros, si on veut avoir le maximum possible, il faut aller jusqu'à 67 ans déjà aujourd'hui.
C'est ce qu'on appelle la double peine. Déjà, tu as une retraite basse, mais en plus, chaque trimestre qui te manque, on t'enlève encore des pourcentages. Donc, ce n'est même pas au prorata, c'est une punition, quoi. Et là, pareil, on est à 20% des femmes qui doivent aller jusqu'à 67 ans du fait de ce que tu as dit, temps partiel imposé, temps partiel choisi. Parce qu'il y a ça aussi. Quand tu as des enfants, on ne te le dit pas forcément, tu ne le sais pas forcément. Au moment où tu fais le choix de prendre des temps partiels pour t'occuper de tes enfants ou de je ne sais quoi, tu ne sais pas forcément l'impact que ça aura sur ta retraite. Et donc, actuellement, on est à 20% de femmes qui devront attendre 67 ans. Avec les 43 ans et demi, ça va augmenter. Là, il y a eu vous savez, chaque fois qu'il y a une loi, il y a une étude d'impact qui est faite.
C'est-à-dire qu'on essaye de prévoir quel effet ça va avoir concrètement sur la masse de tous les gens en France.
Et donc, l'étude d'impact qu'a fait le gouvernement montre que, par exemple, pour les femmes qui sont nées en 1980, elles devront travailler 8 mois de plus, alors que les hommes, c'est 4 mois de plus.
Tout à fait.
Donc, on
j'ai les mêmes chiffres.
Cette inégalité, elle augmente et elle est à chaque fois exacerbée par tous ces points-là.
Ça met en colère.
Ouais.
Ça met en colère. Ça met en colère qu'effectivement, une réforme n'essaye pas de restituer un minimum d'égalité dans déjà quelque chose qui est désagréable pour tous. Mais en plus, ce que tu dis, c'est que c'est encore pire pour les femmes. Et est-ce que du coup, notre conclusion sur le travail des femmes, ça serait... est-ce qu'on peut, en tant que femme, éviter le temps partiel ? Si on a des enfants, j'entends. En tant que femme dans un couple hétéro avec un monsieur qui travaille, est-ce que vous pensez concrètement, est-ce que vous avez l'impression quand vous voyez toutes vos collègues, les femmes syndiquées ?
Si tu trouves une place en crèche ou chez une nourrice, tu peux ne pas t'arrêter de travailler.
Voilà, parle du temps partiel.
Temps partiel.
Parce que même avec la crèche ou la nourrice, moi, j'ai l'impression que c'est difficile de partir, de venir récupérer les enfants tard et de les laisser tard sur une longue journée à la crèche ou chez la nounou. Il y a beaucoup de personnes qui sont aussi réticentes à laisser l'enfant 10 à 12 heures par jour. Donc, est-ce que ça ne pose pas la question du partage vraiment de ce qu'on appelle les tâches domestiques avec les pères ?
Bien sûr. Oui. Et la création de places.
C'est ça, c'est la question
de structures de garde pour les enfants de moins de 3 ans. Il manque 1 million de places pour les enfants de moins de 3 ans dans des structures de garde.
Ah oui.
C'est la question des services publics et pour les moins de 3 ans, mais aussi pour les plus de 3 ans. C'est-à-dire que, par exemple, les vacances scolaires. On n'a pas autant de congés payés qu'il y a de vacances scolaires, ce qui est bien dommage, mais en l'état des choses, on n'a que 5 semaines. Les vacances scolaires, c'est quand même beaucoup plus. Donc, comment Qu'est-ce qu'on fait des enfants quand on n'est pas en vacances ?
Donc la conclusion, c'est quand même qu'encore aujourd'hui, finalement, le poids de faire pousser les enfants, je ne sais pas quel mot il faut dire, d'en prendre soin, de s'en occuper, de les faire pousser, repose quand même sur des femmes et toujours pas sur un service public. C'est-à-dire que finalement, c'est une finance gratuite qu'on donne là, nous toutes, et qu'on donne toute notre vie. Oui. Parce que même à la retraite, on sera finalement encore en train de payer pour avoir pris du temps à élever nos enfants et... pas seule, parce que je crois quand même que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pères qui s'investissent, mais quand même, comme il y a aussi l'inégalité, j'ai l'impression financière entre les couples, c'est-à-dire ce qu'il fait, peut-être qu'on fera une émission un jour là-dessus, qu'on choisit, je vais partir de nous, on choisit d'être avec des hommes qui vont gagner plus que nous, ou bien on a au départ les mêmes formations, et comme les hommes ont plus de chances et d'opportunités, et bien même à formation égale au départ, le monsieur finit par gagner plus que madame, il aura une meilleure carrière, plus facile, etc. Et donc petit à petit, ce cercle vicieux qui fait que, ben voilà, comme monsieur gagne plus, c'est madame qui prend plus de temps par rapport à son travail. Donc à la fin, on paye toute notre vie.
Ben oui.
Il y a ça. Enfin, moi, je ne voudrais pas qu'on oublie quand même la responsabilité des employeurs, parce que enfin, c'est bien joli de reposer ça sur le choix qu'on fait, nous, les femmes, ou qu'on ne ferait pas. Mais il y a quand même structurellement 28% d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes.
On va tout à fait y revenir, et on va y revenir après cette chanson des Fées Moustées qui s'appelle « On parle de parité ».
Spécialement dédicacée aux routières, aux câblières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité. Dédicacée aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, éthologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières, aux costumières, aux couturières, aux façonnières, aux gantières, aux lingères, aux ménagères, aux guichetières, aux secrétaires, aux romancières, aux aventurières, vas-y, continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste, modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacée aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux désinatrice, créatrice, animatrice, opératrice, réalisatrice, productrice, éducatrice, monitrice, compositrice, cantatrice, galérienne, magicienne. Aux historiennes, bohémiennes, grammairiennes, physiciennes, techniciennes, aux gardiennes, électriciennes, mécaniciennes, aux comédiennes, pharmaciennes, musiciennes, pharmaciennes. À toutes celles saisonnières, céréalières ou journalières, qui pour un travail égal à celui qui a fait le mal, la qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité.
c'était de parité des Fées Moustées et je voulais passer ce morceau parce que les Fées Moustées, c'est deux femmes, Troubadour, T pour Troubadour, qui est un groupe de musique toulousain et dont la chanteuse principale, qui s'appelait Françoise Chapuis, est décédée cette année, en janvier 2023. On n'entendra plus leurs chansons qui ont tellement la pêche avec des paroles tellement différentes que de la variété ordinaire. C'est vraiment dommage et c'était un hommage pour elle. Et en plus, Françoise Chapuis était née à Valence. Bon, même si elle n'y a pas beaucoup vécu, c'était le petit quart d'heure de fierté d'avoir produit cette grande chanteuse et grande parolière. On revient au sujet du travail des femmes, presque. C'était une émission sur la retraite des femmes, mais on est avec Karine Guichard de la CGT et Florence Lautrec de Solidaires pour parler des effets sur la retraite des femmes de la réforme récente. Mais on découvre qu'on parle plus largement de nos conditions de travail et nos conditions de vie même, puisqu'on entend bien que ça se mélange avec la question des enfants. Et elles ont toutes les deux insisté sur le fait que le manque de place en crèche et le manque de dispositifs de garde des enfants avaient pour conséquence, indirectement, mais quand même très directement en termes de causalité, des retraites plus basses et des temps de travail plus longs que pour les messieurs. Et avant la chanson, Karine Guichard évoquait la question de l'égalité de salaire. Pourquoi il y a des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes qui persistent? Je crois que c'est Florence Lautrec qui les a citées au début de cette émission, avec un écart quand même moins grand dans la fonction publique que dans le privé. Pourquoi ça persiste alors que toutes les lois imposent l'égalité? Alors, je ne sais pas si vous voulez parler de la fonction publique, quel sujet que vous connaissez le mieux, puisque vous faites partie, une, de la fonction publique d'État, professeur des écoles pour Florence Lautrec, l'eau de la fonction publique territoriale pour Karine Guichard, comme vous voulez.
Moi, je vais seulement... Enfin, tu parlais de la loi. Faut quand même dire que la loi, déjà, elle n'est pas très vaillante, hein, parce qu'il faut seulement avoir un accord pour les entreprises. Il faut avoir un accord égalité et publier un index. Donc, ce n'est pas non plus...
Très coercitif.
Voilà. Et il faut savoir qu'il y a 59% des entreprises qui ne respectent pas ça. Et que fait le gouvernement? Enfin, que fait l'État? Enfin, moi, si je ne respecte pas la loi, j'ai peut-être une sanction. Et bien là, non. Sur les 59% d'entreprises qui ne respectent pas la loi, il n'y en a que 0,2% qui ont une sanction. Oui, il y a quand même une absence de volonté politique, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est-à-dire qu'on vote des lois, c'est comme si on mettait une vitesse à 50 km/h, mais par contre, on enlève tous les radars et on ne met pas de policiers. Hein.
Ça parle bien. Et toi, Florence?
Alors, je compléterais ce que dit Karine. Justement, dans ce projet de réforme des retraites, où on met beaucoup l'accent sur l'emploi des seniors, puisque c'est un gros problème en France de pouvoir être en situation de travail en étant senior, et pas du tout sur l'accès à l'emploi des femmes. Or, toutes ces carrières hachées, ces temps partiels, souvent imposés aux femmes, si les femmes avaient le même taux d'activité que les hommes, déjà, ça rapporterait 5,5 milliards supplémentaires de cotisations pour notre système de retraite.
D'accord, donc tu veux dire, et vous êtes d'accord, je pense là-dessus toutes les deux, que si nous, les femmes, on pouvait travailler dans les mêmes conditions de temps, de durée, de salaire et de carrière et que les hommes, cette réforme de retraite, on n'en aurait pas eu besoin.
Si tant est
qu'on
plus,
en a eu besoin,
on pense
contestez,
déjà qu'on
n'en
a pas besoin.
Voilà.
D'autant plus, d'autres alternatives.
Oui. D'autant plus que le chiffre donné par Florence, j'ai le même aussi, c'est sans tenir compte du temps de travail. C'est-à-dire que c'est seulement les inégalités salariales à...
D'accord, si on avait le même salaire que les messieurs, tout simplement,
oui, en équivalent temps plein. Quoi.
Oui,
voilà.
D'accord. Voilà.
Là, c'est sans compter. Donc, tu rajoutes les temps partiels. Là, on est même en excédent. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends... Moi, je travaille dans une mairie. Il y a beaucoup de travail à temps partiel imposé, notamment toutes les dames qui travaillent dans les écoles, les animateurs. Enfin, ils sont tous entre 25 et 30 heures. S'ils travaillent à temps plein, vous imaginez le nombre de cotisations. Enfin, je parle pour elles, mais on pourrait parler aussi des caissières dans les supermarchés, des vendeuses, des serveuses. Donc, si tu rajoutes de remettre le salaire à égalité, à emploi égal, etc., plus la limitation des temps de partiel, on est bon là.
D'accord.
On peut partir à 60 ans, on n'est même pas obligé de rester jusqu'à 60 ans.
Et la passe à 55 pour ceux dont le travail est pénible.
Exactement.
Alors c'est vrai qu'à vous écouter, on se dit qu'il y a quand même un problème, parce que ça serait quand même mieux qu'on puisse travailler côté FAB en étant payé de manière finalement juste, c'est-à-dire égale aux hommes qui tiennent le même emploi, et puis qu'effectivement on puisse tous partir à 60, ça serait formidable. Enfin déjà, bon, les 64 pour le moment on y est, on attend je crois la décision du Conseil constitutionnel, les manifestations continuent, on va voir ce que ça donne. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues nous expliquer cette réforme des retraites du point de vue des femmes. C'est vrai que ça motive encore plus pour aller dans la rue quand on est femme. Enfin, je parle pour moi, je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, si ça vous aura parlé, intéressé. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les envoyer à contact@radiobelv.com. On les transmettra à Florence Lautrec et à Karine Guichard. Si vous voulez des précisions sur certains points qu'elles ont apportés, avant d'écouter la chronique d'Oxane qui porte ce mois-ci sur un film qu'elle a vu et qu'on a enregistré ensemble il y a quelques jours. Est-ce que vous voulez chacune peut-être conclure, Karine, pour la CGT, si tu veux
Oui, vite fait. Enfin, la question des retraites, au-delà du fait du chiffon rouge des déficits qui ne correspondent à rien, c'est en réalité pour nous faire travailler plus longtemps, pour répondre aux besoins du capital. C'est à la fois anti-social, anti-écologique, et c'est une catastrophe. Voilà, donc c'était... Et un petit chiffre pour finir, tous les ans, l'État donne 157 milliards d'aides aux entreprises, c'est-à-dire 13 fois le déficit sur 10 ans des retraites. Donc voilà, c'est un choix politique, c'est pas du tout une nécessité.
Merci. Et toi,
voilà, c'est ce que j'allais dire derrière Karine. C'est un choix politique, un choix de société, de ce dont on a envie, de ce qu'on a envie de privilégier. Et
oui, je vois votre point de vue. Vous vous dites, finalement, l'argent en quantité illimitée, ça n'existe pas. Et le principe même du politique, comme de la politique familiale, on choisit si on va... Alors, si tout va bien, on choisit là, on va partir en vacances, plus ou moins loin. Si tout va mal, on choisit de ne pas partir en vacances parce qu'il va falloir mettre l'argent dans la nourriture, par exemple, ou les habits des enfants. Et au niveau d'un État ou d'une protection sociale, c'est la même chose. On choisit là où on met nos dépenses et nos recettes. Et c'est ce choix-là que vous créez en étant dans la rue.
Voilà, c'est Robin des Bois à l'envers, on pique aux pauvres pour donner aux riches.
Absolument.
Bon, écoutez, vous êtes d'accord toutes les deux. On va terminer. J'aurais bien repassé une petite chanson, mais je crois qu'on est un petit peu court en temps. On va terminer en écoutant la chronique d'Oxane. Oxane, chers auditeurs, chères auditrices, vous vous souvenez que c'est cette jeune fille qui accompagne la titanesque émission depuis un bout de temps maintenant, au moins 2 ou 3 ans, avec une chronique livre jeunesse. Et je l'ai enregistrée avant-hier. On l'écoute. Salut Oxane, alors de quel film tu nous parles aujourd'hui ?
Ce mois-ci, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Moxie. Moxie parle d'une lycéenne introvertie nommée Viviane qui vit aux États-Unis. Tous les ans, les garçons du lycée font un classement qui catégorise les filles. Il y a la plus baisable, les plus bonichons, la sainte nitouche, le plus beau cul et il y a cette fois salope. Pas comme tous les ans. Salope est attribuée à la nouvelle qui a osé tenir tête au capitaine de l'équipe de foot, qui est donc une icône dans le lycée, ce qui est pas très bien vu. Alors Viviane, elle trouve ça injuste ce classement, Alors, elle va, vu qu'elle est trop timide pour protester directement, elle décide de créer une fanzine de manière anonyme. Dessus, elle note la liste des plus grosses enflures du lycée, des mecs, et elle lance une première action, se dessiner des cœurs et des étoiles sur les mains en signe de reconnaissance. Le lendemain, un autre jour, je sais plus, on s'en fout, un autre jour, la directrice vient voir une des ados du lycée parce qu'elle est habillée en débardeur et que sa poitrine est trop grosse et a donc des seins trop voyants. Alors elle lui demande de se rhabiller, mais comme elle n'a pas envie, elle la renvoie chez elle.
Ça m'évoque des épisodes récurrents dans les collèges et lycées français. Ce n'est pas une spécificité américaine. La pruderie.
Oui, c'est surtout pour les crop tops et les shorts. Et du coup, elle décide de faire une nouvelle action via le fanzine, donc Viviane, où elle demande à toutes les filles de venir en débardeur le lendemain. Donc voilà, donc elle est inspirée par les actions féministes que sa mère faisait à son âge. C'est pour ça qu'elle décide de créer ce fanzine. C'est un jour, elle est révoltée, elle se dit « Allez, on va faire ça ». Et bon, du coup, je vous raconte pas tout. Mais le mouvement va commencer à se propager dans tout le lycée. Les filles se sentent écoutées et soutenues. Et du coup, je trouve ça vachement cool. J'ai beaucoup aimé ce film. Du coup, parce qu'il est féministe. Plein d'émotions. Et le fait de voir des filles se rebeller dans leur lycée me donne un peu d'espoir.
Et c'est un film qu'on peut voir sur une plateforme ou c'est un film qu'il faut chercher sur Internet ?
C'est sur Netflix.
Et bon, bah, j'imagine bien que du coup tu le recommandes pour les gens qui ont 13 ans, mais peut-être plutôt, sinon, comment tu vois les choses ?
Alors non, effectivement, plutôt à partir de 13 ans, parce qu'il y a des choses dures évoquées. Et d'ailleurs, trigger warning, il y a une révélation qui peut remuer, mais qui donne lieu à un beau moment de sororité. Donc voilà, c'est si... là, pour les insensibles.
Merci. Au mois prochain, tu reviens nous voir ?
Ouais, au mois prochain.
Yo, I'll tell you what I want, but I really, really want.